À la rubrique santé, selon un sondage Ondoxa révélé par le journal sur le web 20 minutes, les Français consomment davantage de produits psychoactifs, comprenez alcool, cannabis, tabac, mais aussi des médicaments psychotropes, entre autres, depuis le confinement, les pratiques addictives, comportementales également, un jeu vidéo ou consultations excessives des réseaux sociaux sont également en hausse. Alors pour ce qui concerne le sujet de l'alcool notamment, ou du tabac, un petit verre de vin le soir, quelques cigarettes de plus, tendance également à grignoter, et d'ici le 11 mai, aucune raison que cela ne puisse s'arranger, à moins peut-être d'écouter les conseils avisés du docteur Chloé Marveau avec l'Association Nationale de Prévention en Alcoolologie et Addictologie, la NPAA, qui devrait être avec nous par téléphone. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous, docteur Marveau?
Ça va.
Oui, merci d'avoir pris quelques minutes, je sais que c'est plutôt occupé en ce moment pour vos journées. Le confinement, on y vient. Avant cela, la présentation, c'est l'occasion aussi de parler de la NPAA. Est-ce que vous pouvez nous, en quelques mots, nous en causer?
On est une association nationale, donc on est présent sur tout le territoire. Il y a quasiment tous les départements de France qui ont une NPA de disponible. On propose des consultations de psycho, des travailleurs sociaux, des infirmiers, des médecins, pour le suivi de tout type d'addiction. Alors historiquement, on était plutôt orienté alcool, mais on se généralise de plus en plus. Là, sur le territoire montois notamment, on est devenu XAPA généraliste. Donc on aborde tout type d'addiction, à la fois addiction à des produits, stupes, alcool, tabac, cannabis, tout ça. Et aussi addiction comportementale, donc les addictions au jeu, les addictions, les troubles du comportement alimentaire, les addictions sexuelles, tout type d'addiction. C'est des suivis de différents rythmes en fonction de vos symptômes, de ce que vous décrivez, de vos besoins, de vos envies. Donc on est vraiment centré sur le consommateur. Et puis on propose aussi pas mal de prévention, de sensibilisation dans les écoles, les lycées. On travaille avec le centre pénitentiaire aussi. On fait des consultations, de la sensibilisation. On est en train de développer aussi le festif sur le territoire montois. On fait des stands de prévention dans des festivals. Donc c'est une activité assez variée,
oui.
Extrêmement intéressante.
Le champ d'investissement, d'investigation plutôt en tout cas, est extrêmement large. C'est au 109 rue Fontainebleau, pour votre information. Les adresses, les liens internet, on va tout mettre ça sur la page Facebook de Radio MDM. À l'issue de cet entretien avec vous, on voulait prendre quelques exemples, avoir des questions comme ça qui nous viennent. Alors en plus, il fait beau aujourd'hui, on arrive vers les beaux jours, et il est vrai que le soir, l'apéritif. Est-ce que c'est grave, docteur, si on a envie de prendre un verre, puis deux, que l'opération se renouvelle finalement un petit peu trop souvent. Est-ce que c'est grave? C'est tout simplement ma question.
Alors, c'est large comme question. C'est grave, oui et non. Ça dépend de la fréquence, ça dépend du nombre de verres, ça dépend du contrôle que vous avez sur votre consommation. En fait, la question de la dépendance, si c'est ça votre question, c'est pas forcément qu'une question de quantité. C'est une question de perte de contrôle, de consommation compulsive. Si votre consommation, elle est au centre de votre vie, si vous, dès le matin, vous vous réveillez en pensant déjà à l'apéro du soir, c'est pas pareil que si tranquillement, avec des amis, vous prenez un apéro, un verre ou deux, dans les limites OMS classiques qu'on entend régulièrement, à savoir deux verres par jour et pas tous les jours. C'est pas du tout la même chose que si vous consommez deux verres par jour, pas tous les jours, mais que vous y pensez toute la semaine, tout le temps, que vous réfléchissez dès le lundi à ce que vous allez pouvoir consommer le week-end. C'est vraiment pas du tout le même type de consommation. L'addiction, ça va au-delà de la consommation, c'est multifactoriel, c'est vraiment tout ce qui impacte votre consommation et tout ce que votre consommation impacte, en fait. Donc c'est pas grave de consommer deux verres par jour, pas tous les jours. Par contre, si vous êtes concentré sur cette consommation, si en plus vous voyez que pour avoir le même effet, il faut que vous buviez un petit peu plus, parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de tolérance, on est obligé d'augmenter les doses pour avoir le même effet. Si vous ne pouvez pas passer une soirée sans consommer de l'alcool, parce que sinon vous vous ennuyez, c'est terrible, la vie est un enfer, là ça devient un petit peu plus problématique, effectivement.
Oui, vous me faites une transition parfaite. C'est valable aussi, confinement, les journées peuvent être longues, la nervosité, l'angoisse aussi du lendemain. Pour ce qui est de la cigarette pour les fumeurs, justement, quels conseils vous donneriez pour gérer la consommation en cette période de confinement?
Alors le problème, enfin un des problèmes qu'on rencontre dans le confinement, c'est la perte de la notion du temps qui passe. Et ça, c'est un truc qui nous est renvoyé régulièrement chez les personnes qui sont en chômage partiel ou qui ont complètement arrêté de travailler, pour lesquelles il n'y a pas de télétravail possible. Le temps qui passe, on ne sait plus quelle journée, on ne sait plus quelle heure il est. Donc déjà, un truc important à faire, c'est de faire un planning, même si ce n'est pas un planning professionnel, mais un planning, vous vous levez le matin à une heure à peu près fixe, vous essayez d'avoir des activités le matin, vous essayez d'avoir, si vous devez regarder la télé à un moment donné, bah, vous vous donnez une heure à laquelle vous regardez une émission, pas deux, pas dix, parce qu'on parle du tabac, mais il y a aussi des écrans. Enfin voilà, on essaye de faire un planning avec des horaires un peu définis. Et pour les envies de cigarettes, peut-être essayer de définir un cadre. Ça, c'est vachement important, parce qu'en fait, quand vous bossez, vous avez un cadre. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous faire des pauses n'importe quand, tout le temps. Donc, il y a un cadre qui est défini. On fume avant le boulot, on fume à midi, on fume après le boulot. Et puis, éventuellement, on se fait une pause ou deux dans la journée, mais on n'est pas tout le temps en train de fumer. Enfin, à part certaines professions où effectivement c'est possible. Mais là, l'idée, c'est que malgré le confinement, continuez à définir un rythme. Ouais. Et surtout, éventuellement, si vous vous rendez compte que vous augmentez votre consommation, ça peut être intéressant de prendre le temps de noter les clopes. C'est-à-dire que on ne se rend pas forcément compte non plus de ce qu'on consomme quand on n'a plus cette notion du temps. Donc ça peut être intéressant de noter, on se prend un ou deux jours où on note toutes les cigarettes qu'on consomme et on verra bien aussi si on a vraiment augmenté sa conso. Et après, à partir de cette espèce de petit calendrier de consommation, on pourra définir les clopes qui ne sont pas indispensables, les cigarettes dont on a vraiment besoin, et essayer de revenir à ces cigarettes-là obligatoires, entre guillemets, tant qu'on n'est pas dans une dynamique de sevrage, pour rester sur une consommation bien contrôlée.
Alors à l'inverse, il y a ceux qui ont par exemple qui ont dit le 1er février dernier ou le 1er mars, j'arrête, et qui ont arrêté. Et là, ils se retrouvent en confinement. On sait que surtout au début, quand on arrête de fumer, voilà, c'est extrêmement fragile. Et là, avec le confinement, il y a quelques pensées, quelques obsessions autour de la cigarette qui peuvent revenir. Que peut-on faire ?
Par rapport à ces idées obsessionnelles, ce côté j'ai envie de consommer là tout de suite maintenant ?
Ouais. Comment on s'y prend ?
Après, alors nous on travaille beaucoup sur les activités occupationnelles. C'est-à-dire qu'en fait, l'envie de consommer, alors c'est valable pour n'importe quel produit. Hein. Là, on parle de la cigarette, ouais. Mais c'est valable pour n'importe quel produit ou n'importe quel comportement addictif. On a ce qu'on appelle le craving. Le craving, c'est l'envie compulsive de consommer. Tous les fumeurs, toutes les personnes qui ont été à un moment donné dépendantes à un produit le savent, connaissent cette sensation. C'est vraiment ce truc qui vous prend au trip et qui vous empêche quasiment de réfléchir. On est obsédé par la consommation. Donc nous, on travaille énormément en addicto avec les activités occupationnelles. Ça, c'est un truc qui peut être intéressant à mettre en place pendant le confinement parce qu'on a un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on ressent et à comment on consomme. C'est vraiment de se faire une liste d'activités. Alors, c'est plus compliqué quand on est confiné parce qu'effectivement, c'est plus compliqué d'aller se balader, d'aller sortir, etc. etc. Mais en fait, on a, même chez nous, on a... Alors, c'est pas forcément des activités super fun. Hein. Ça peut être se faire les vitres, ça peut être faire un sudoku, ça peut être aller sur Internet pour chercher un truc bien particulier. Ça peut être une liste de téléphones, enfin une liste de personnes à appeler, des personnes un petit peu... des personnes ressources. Donc, ouais. Vous pouvez avoir des personnes à appeler quand vraiment l'envie devient trop importante. Et en fait, ce craving, cette envie de consommer, elle dure un certain temps. Alors, d'une personne à l'autre, ça peut être 5 minutes pour l'un, ça peut être jusqu'à 15, 20 minutes, voire une heure pour l'autre. Et à force d'essayer de comprendre comment ça se passe pour vous, vous apprendrez à vous connaître et vous apprendrez à gérer ce craving et à savoir combien de temps il faut que vous occupiez l'esprit pour que l'envie diminue et disparaisse finalement.
On est ici au quartier du Pays-Roi à Mont-de-Marsan avec Radio MDM. Il y a le centre de santé Le Phare qui est là pour ça aussi. On pense aux personnes de ces quartiers à un isolement social. Est-ce que cet isolement il peut augmenter les consommations? Quand est-ce qu'on peut vraiment parler aussi de voilà quand c'est qu'on peut dire je suis addict à la clope, au tabac ou autre?
Alors l'isolement social, oui, complètement. Hein, parce que quand je vous parlais des personnes ressources, on est là-dedans. Hein, l'environnement, l'entourage, quand on arrive à verbaliser, parce qu'il y a ça aussi, c'est pas parce qu'on a du monde qu'on verbalise forcément son problème de dépendance. Ouais. Et c'est toujours un petit peu honteux. Hein. Alors le tabac, maintenant, on en parle plus parce qu'effectivement, il y a eu des grosses campagnes de prévention. Et quand on décide d'arrêter de fumer, c'est super, tout le monde vous admire, tu vas y arriver, il y a du soutien, etc. L'alcool, par contre, dire il faut que j'arrête de boire, ça sous-entend je bois trop et c'est pas encore accepté dans nos sociétés. C'est encore très stigmatisant de dire je bois trop. Quand vous allez à une soirée et vous dites j'arrête de boire, tout de suite on va vous regarder avec des grands yeux, genre essayez. Soit on va vous dire il est alcoolique, c'est terrible, soit on va dire il va devenir atroce, on va s'ennuyer avec lui. Enfin, ouais, on est vraiment encore là-dedans. Donc l'environnement, oui, ça peut être positif si c'est pas un environnement jugeant. Et ça peut être nécessaire parce que c'est des personnes ressources, justement, quand vous avez besoin d'appeler quelqu'un parce que l'envie est trop envahissante, c'est très très intéressant d'avoir quelqu'un autour de vous pour vous accompagner là-dedans. Donc l'isolement social, à l'inverse, peut être plus problématique. Et en période de confinement, vous travaillez à la radio, donc vous vivez à 100%, mais c'est extrêmement anxiogène tout ce qu'on entend tout le temps. On a des infos qui sont dramatiques, on vit avec ces angoisses en permanence. Les gens qui sont seuls, ils n'ont pas d'autre solution pour entendre une voix humaine, vu qu'ils sont confinés, que d'allumer la radio, allumer la télé, etc. Donc ils se prennent encore plus de plein fouet toutes ces informations extrêmement anxiogènes. Donc effectivement, il y a beaucoup plus d'angoisse et il y a moins de facilité à gérer ces angoisses avec un environnement présent. Et donc, je ne sais plus si j'ai répondu à votre question.
Oui, si, complètement. Ça m'amène carrément, je vais dans le sens inverse, à l'opposé, gros mental. Est-ce que le temps du confinement, justement, on peut le mettre à contribution pour le sevrage?
Alors, oui, c'est un peu cavalier, mais oui. Alors, et en plus, il y a des personnes qui sont même en sevrage forcé. Donc, on parle beaucoup d'alcool, de tabac, mais quand on est sur des drogues illicites, il y a des sevrages forcés, puisque forcément, les sources sont un petit peu taries par la fermeture des frontières. Donc, il y a des sevrages forcés. Alors, oui, on peut mettre à contribution le confinement pour envisager un sevrage. Par contre, tout seul, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment très, 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 extrêmement dangereux de se sevrer en alcool tout seul. Parce que si on est effectivement dépendant, c'est un des seuls sevrages qui tue. Hein. Il faut savoir que le sevrage en opiacé, il est terriblement difficile à supporter, mais il ne tue pas. Le sevrage en cocaïne, pareil. Le sevrage en cannabis, pareil. C'est des sevrages qui sont difficiles à supporter psychologiquement et physiquement. On peut avoir des signes de sevrage, mais on ne va pas en mourir. Par contre, le sevrage en alcool, quand on arrête de consommer brutalement d'un coup, si on était effectivement dépendant à l'alcool, il y a des risques de mort. Et régulièrement, on a des morts chaque année liées à des sevrages brutaux parce que ça a été fait dans des mauvaises conditions. Donc c'est très 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 important, si on décide de se sevrer notamment en alcool pendant la période de confinement, de se faire accompagner et de ne pas le faire tout seul. Ça, c'est très important. Vraiment. Il vaut mieux, à la limite, partir sur une réduction progressive de consommation plutôt que... Alors, en reprenant cette histoire de calendrier de consommation et de définir, aujourd'hui je suis à, j'en sais rien, admettons 15 verres par jour, demain je vais passer à 13 verres par jour pendant 3-4 jours, et puis je diminue de 2 verres tous les 3-4 jours, par exemple. Ouais. Là, on est sur de la réduction progressive, et donc on ne se met pas en danger en termes de santé. Par contre, si on arrête d'un coup, là, il faut faire très attention.
Je pense qu'on aura l'occasion, dans un deuxième volet, on se retrouvera aussi pour évoquer peut-être justement l'après-confinement ou la sortie, avec les risques de rechute et d'abus que ça pourra entraîner. Juste une question, docteur, pour ce qui concerne avec l'Association nationale de prévention d'alcoolologie et addictologie, comment vous faites, comment se passe le suivi des patients malgré le confinement ?
Alors nous, au niveau national, on a pris le parti d'arrêter les consultations présentielles. Donc il n'y a plus de consultations physiques. Il y a encore quelques centres qui font des permanences, notamment les CARUD. Alors les CARUD, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Le CSAPA, c'est le centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et les CARUD, c'est les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Donc c'est tout ce qui est distribution de matériel, accompagnement des personnes qui sont dans la consommation, mais qui ne sont pas forcément dans le soin. Donc, enfin, pas dans le même soin, le soin d'un point de vue médical, si on a le soin, mais différemment. Et donc, on va les accompagner en leur distribuant du matériel, en les accompagnant un petit peu dans la consommation, mais en faisant de la réduction des risques. Donc ça, c'est encore autre chose. Et eux continuent à faire des consultations physiques. Nous, au sein de l'ANPA, on a décidé de continuer les suivis comme on le faisait d'habitude. Donc, on a le même planning que d'habitude, sauf qu'on fait tout par téléphone ou en visio. Donc, on a commencé à débuter les consultations en visio, ce qui est aussi très intéressant dans l'élan, mais qu'on va probablement continuer après le confinement avec des personnes qui sont très éloignées. Jusqu'à présent, on les faisait venir, ça faisait parfois une heure et demie de route, sachant que nous, on fait des consultations avancées de temps en temps à Parentis, à La Bouère, à Jetmo, mais ça nous arrivait quand même de les faire venir sur Mont-de-Marsan, donc ça faisait beaucoup, beaucoup de route pour les consultations. Et là, on est en train de développer la visio, enfin les consultations, les téléconsultations, et on fait beaucoup de consultations par téléphone, en fait. On a aussi ouvert une permanence téléphonique pour les personnes qui sont en détresse. Donc on a chaque jour un soignant, un professionnel qui est disponible pour répondre au téléphone si jamais il y avait besoin. Et puis il y a le CARUD de la source qui continue à faire des maraudes et à faire des suivis avec de la distribution de matériel. Il y a quand même un gros accompagnement au niveau social et au niveau addicto sur le territoire montois, encore en ce moment, malgré le confinement. On essaye justement de ne pas lâcher les gens parce qu'il y a des risques de surconsommation, il y a des risques de sevrage brutaux, il y a des risques de décompensation psychiatrique du feu de Dieu là, avec le contexte très anxiogène actuel. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment pas lâcher les gens, quoi.
Alors, ces gens, justement, je terminerai par ça, est-ce que les personnes, justement, qui trompent l'ennui, qui trompent le stress pendant le confinement, qui adoptent un comportement addictif, est-ce qu'ils peuvent, le 11 mai ou un peu plus tard après, tout arrêter, reprendre comme s'il n'y avait rien eu, en fait?
Oui, pour certains. Ouais. Le problème de l'addiction, et de la dépendance, c'est qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir aucune difficulté à reprendre leur vie, entre guillemets, normale, et d'autres qui auront déjà à la base un terrain un peu fragilisé, que ce soit parce qu'il y a un terrain génétique, parce qu'il y a un environnement qui est favorisant, parce qu'il y a une période de la vie, là, par exemple, il y a certaines périodes type adolescence, il y a certaines périodes de la vie où on est plus à même, plus fragile, et donc on est plus à risque de développer une addiction. Il y a, pour peu qu'il y ait un terrain neurobiologique un peu fragilisé, un comportement ou alors une personnalité plus à risque, ces personnes-là, par contre, pourront avoir plus de difficultés à revenir à leur mode de consommation, entre guillemets, normal, classique. Et là, pour le coup, on va, je pense, après le confinement, avoir de nombreuses consultations qui vont être nécessaires pour reprendre une consommation plus contrôlée et les accompagner un petit peu là-dedans parce que l'événement actuel ne sera pas l'événement qui va provoquer la dépendance. Par contre, c'est peut-être un événement qui va venir accentuer un terrain qui était déjà fragilisé. Je ne sais pas si ça vous...
Si.
Ça vous parle.
Ouais. si, en plus, ça me fait une excellente transition pour parler de l'après 11 mai. Je pense qu'on aura l'occasion, je le disais il y a quelques minutes, de se retrouver pour anticiper les dérives ou les effets pervers, entre guillemets, de l'après confinement. Le docteur Chloé Marvaux de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie qui était notre intervenant. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces lumières.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.